carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Lucien Clerc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de musique et d'un instrument qui vous accompagne depuis votre enfance, depuis vos 7 ans, le violon. Comment dépeindriez-vous à la radio cet instrument magique dont les sonorités exaltent quand même l'hypersensibilité, la mélodie d'abord ?
C'est vrai que pour moi, c'est le roi des instruments. Mais bon, d'autres diraient autre chose. Mais je pense que vraiment, c'est le roi des instruments. D'abord parce que par sa tenue, cette intimité qu'il a avec l'individu qui en joue, et puis par cette sonorité qui peut être exceptionnelle selon, évidemment, celui qui sait le manier, notamment l'archer qui l'accompagne. Alors, le violon, pour moi, c'est ma mère qui a voulu, quand j'étais petit, que je sois un artiste. Et dans sa vision romantique de la chose, c'était sans doute le violoniste qui joue des berceuses, des romances, je ne sais pas trop, parce que, vous savez, ma mère venait de Salins-de-Giraud, qui est la capitale du sel, et autant vous dire qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de violonistes qui soient passés à Salins-de-Giraud pour jouer quoi que ce soit. Mais voilà, c'était dans sa tête. Ma mère est née en 1902, je ne sais même pas s'ils avaient la radio à la maison. En tout cas, voilà. Et elle m'a donné deux professeurs. Le premier était pas très... je ne m'entendais pas bien. Puis le second était une femme assez, comme on dit chez nous, pétulante, assez drôle, très vive, bonne vivante. J'ajouterais qu'elle avait un décolleté généreux qui fait qu'à partir d'un certain âge, je sais plutôt si j'y allais pour le violon ou pour voir son décolleté qui me procurait beaucoup d'émotions. Mais pourquoi pas, après tout, cela est lié. Et j'ai dit souvent, d'ailleurs, dans les interviews ou des textes, que les manuscrits de Bach sont d'une sensualité extraordinaire pour moi. Les arrondis de tout ce qu'il écrit laissent supposer un homme très sensuel. Voilà, donc le violon. Et alors, le problème se posait d'un instrument.
Mais
et
alors, votre mère vous a offert un violon, enfant, ben, donc vous avez eu un premier violon.
J'ai eu le petit violon d'études, voilà, qui est un trois quarts ou un demi, je ne sais plus. Oui. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, vous savez, les violons, ça ne se vend pas, ça se donne, ça se passe de l'un à l'autre. Alors voilà, j'en ai un, et je me suis renseigné auprès de votre professeur, vous semblez être le plus doué de son équipe, donc ce violon est pour vous. Naturellement, ce monsieur est mort depuis, et je suis bien embarrassé parce que je me dis que j'en joue toujours un peu de temps en temps, donc je veux pas le donner à quelqu'un. Je me demande à qui, d'ailleurs, et ça sera une question
qu'il faudra
que je dise bien à mes filles. Mais voilà, c'est un violon qui est assez dur. Et alors, j'ai eu une surprise il y a très peu de temps. J'ai enregistré pour France Culture une émission dans la maison, ici,
sous la coupole où vous avez joué.
Et j'ai joué sur le Guarnieri de la merveilleuse violoniste, premier violon de l'Orchestre National. Et elle a joué, évidemment, d'abord sous la coupole. Et ensuite, elle a eu l'extrême générosité de me prêter son instrument exceptionnel, qui est un Guarnieri. Et je ne sais pas pourquoi je m'étais fait une idée que c'était un instrument très doux, très souple. Et il était aussi dur que... solide comme le mien. Et donc, je m'y suis très vite adapté. Et voilà. Donc, j'ai eu ce privilège rarissime de jouer sur un Guarnieri, alors que je n'ai aucune disposition pour ça. Mais mon Dieu, j'ai joué une pièce qui s'appelle La Mazurka sous Tulipine, qui est un morceau du folklore provençal qui n'est pas du tout dans le répertoire des violonistes. Mais peut-être l'adoptera-t-elle un jour comme bis, qui sait.
Donc, ça, c'est un peu votre morceau.
Oui, mon autre morceau de bravoure, c'est Limelight de Chaplin, qui, comme vous le savez sans doute, est très inspiré du concerto de Tchaïkovski et pour piano. Et donc, voilà, ce sont mes deux morceaux de bravoure.
Quels sont vos compositeurs préférés ?
En premier lieu, c'est Jean-Sébastien Bach. Je répéterai Bach, parce que non seulement pour la musique violonistique, l'écriture pour le violon, mais pour tout ce qu'il a fait, quoi. C'est un enchantement permanent. Et sa musique m'a beaucoup inspiré pour mes photographies.
Donc avant d'être photographe, avant la photo, vous avez appris la musique. C'est une discipline, c'est un plaisir, c'était déjà un art. Ça vous a probablement quand même structuré dans votre approche du monde. Vous aviez été sensible comme ça à la musique, mais qu'est-ce que ça vous a appris pour vous dans votre vie de photographe, mais dans votre façon d'apprendre, de vous ouvrir au monde ?
Il faut bien se dire que j'étais d'abord destiné au violon.
Ah oui, c'était
c'est-à-dire
la
que je
mission.
Me destinais à une carrière de violoniste. Et que le jour où mon professeur d'Arles m'a dit « Je ne peux plus rien t'apprendre, il faut que tu ailles au conservatoire », nous étions à Arles. L'idée d'aller au conservatoire, même de Marseille, qui n'était pas très très loin, mais enfin s'il fallait prendre le train, nous n'avions pas un sou. Ma mère ne pouvait pas me payer le train. Donc, il fallait renoncer à cette idée. Alors, j'ai continué quand même à travailler encore un peu avec mon professeur. Et comme ma mère m'avait aussi offert, à l'âge de 13 ans, un appareil photo en bakélite, qui était un jouet plus qu'un véritable appareil, j'avais commencé à faire des photographies. Naturellement, mon violon d'abord, que j'avais posé sur une affiche où était écrit en gros « Yehudi Menuhin ». Et puis, j'avais photographié ma mère, bien entendu, qui faisait des broderies. Donc, voilà, ma mère est morte, malheureusement, un peu après, à l'âge de 50 ans. Moi, j'en avais 18. Et c'est étrange, d'ailleurs, j'y réfléchis récemment, mais ma mère est morte fin 52. Et trois mois après, j'ai rencontré Picasso, qui, lui, alors, m'ouvrait des portes beaucoup plus vastes que ne m'avait ouvert le violon. Parce que le violon m'avait ouvert déjà des portes. C'est-à-dire que, étant donné mon goût pour la musique, il y avait un violoncelliste à Arles qui était en fait un ophtalmo et qui me soignait pour les yeux. Et il organisait des concerts. Ça s'appelait les heures musicales. Et il avait créé une section de jeunes. Ce n'était pas les grandes jeunesses musicales de l'époque d'Arles, c'était les jeunesses musicales d'Arles. Et il m'avait chargé de ce secteur, donc j'avais comme fonction en particulier de recevoir les artistes, mais aussi de vendre le programme, ou de donner le programme, je crois qu'on le donnait, à l'entrée de la petite salle de concert qui était un bijou. C'était la salle de, c'est toujours la salle de mariage de la mairie d'Arles, qui a été dessinée en partie par Mansart, et tous les musiciens étaient ravis de jouer là. C'est tout en boiserie, la sonorité est rare. Voilà. Donc là, j'ai eu l'honneur extraordinaire de rencontrer Sering, de rencontrer Jacques Thibault, le violoncelliste Maurice Gendron, le guitariste Lagoya et surtout André Segovia qui était avant Lagoya. Enfin, je veux dire, j'ai eu l'ouverture sur des artistes qui, évidemment, me faisaient découvrir notre monde.
Il n'y a pas que la musique de Manitas de Plata dont vous nous aviez parlé quand vous étiez venu parler de Picasso sur cette antenne, puisque vous avez été son impresario, que les Gitans font partie d'Arles, hein, et vous avez été très proche d'eux, y compris dans pas vos premières photographies, mais au début de votre carrière photographique. Donc cette carrière d'impresario, elle est ancienne, j'allais dire. Je ne savais pas que vous étiez...
Oui, enfin, je n'étais pas vraiment...
Non, vous n'étiez pas impresario, mais vous étiez lié au monde de la musique, au spectacle, au concert. Vous avez un rapport très proche, en fait, avec la musique, parce que vous participiez et vous participez peut-être encore à mélanger ou à être proche de dans l'organisation de concerts, je veux dire. C'est...
Lorsqu'on a parlé de Bach tout à l'heure et de son importance, bon, il y a une pièce pour violon qui est exceptionnellissime, c'est la Chaconne. Et la Chaconne m'a énormément aidé par sa construction, et notamment dans ma thèse que j'ai présentée à l'Université de Provence, « Langage des sables », qui est en image seule, il n'y a pas de texte. C'était une révolution, ça s'est fait une fois, je crois, ça a été la première et dernière fois. Mais la construction de la Chaconne est sous-jacente. Je ne peux pas dire que c'est une illustration de la Chaconne, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que cette construction très précise et calculée de Bach m'a énormément soutenu. Voilà.
Comme une mise en image,
oui.
C'est une structure rythmique ou mentale ou qui.
Oui, avez, j'ai eu beaucoup. En particulier aussi, j'avais fait avant le Langage des sables une série qui s'appelle Le Marais d'Arles. C'est-à-dire la réflexion d'herbes, de roseaux, de vignes dans l'eau, qui se dédoublent, qui se multiplient, etc. Et là, il y avait comme une écriture musicale. D'ailleurs, lorsque j'ai montré ces photos à Maya Sacher, qui était la femme de Paul Sacher, le fameux chef d'orchestre de Bâle, et qui avait commandé des partitions à Martinou, à Béla Bartok, à Olivier Messiaen, etc., Maya Sacher m'a dit « Lucien, je veux vous acheter ces photos pour les offrir aux compositeurs parce que ça ressemble à leur écriture musicale. » Alors vous voyez, je suis très, très fier et très honoré parce que sans doute dans les archives de ces compositeurs, il doit y avoir des photographies de moi des années 50-60.
C'est extraordinaire. Formidable. Ça.
Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de vivre dans le chalet où Béla Bartók a composé le dernier quatuor à cordes et le divertimento pour cordes, qui avait été le fameux chalet où Maya Sacher l'avait invité juste avant la guerre, juste au moment de la déclaration de guerre. Et enfin, ceci est une autre histoire que je pourrais vous raconter une autre fois.
Lucia Clerc, je fais une petite aller-retour du côté de la photographie. Est-ce que vous travaillez en musique? Est-ce qu'il y a des échos comme ça entre musique et photographie?
Je ne travaille pas en musique, mais la musique est en moi.
Voilà.
C'est-à-dire que je me fais ma propre musique. Enfin, j'écoute, je me prolonge. Mais par exemple, pour vous donner une idée, lorsque j'ai été opéré en 58, j'avais 24 ans, j'étais opéré d'une appendicite. J'ai failli mourir. C'est Picasso qui m'a sauvé.
Oui.
Je n'ai emporté avec moi que la partition des six sonates de Bach que j'ai lue. Alors les gens étaient surpris, mais ils disaient, t'as pas emporté de livre et tout. Ben non, je dis, je m'écoute. C'est l'exécution idéale quand on se la fait comme ça dans l'esprit en lisant la partition. Et voilà. Donc si vous voulez, c'est très important pour moi. Mais écouter la musique en travaillant, ça me dérange.
D'accord.
Je n'y arrive pas.
D'accord. Donc, ça fait partie de votre musique intérieure et vous êtes capable de lire la musique.
Sauf que, je vais vous dire, j'ai photographié une ravissante Libanaise au bord de la plage le jour, et je ne le savais pas évidemment, je l'ai su après, le jour de la mort de Saint John Perse, le poète. J'ai fait un livre
avec
une Genèse.
Vous avez fait un livre, voilà.
Et nous avions apporté une petite radio sur la plage où on écoutait ensemble le fameux morceau de Villa-Lobos, Bahianas Brasileiras, chanté par Bidou Sayon, la créatrice. Et parce que je préparais un film pour Pierre Bromberger, qui s'appelait Méditerranéenne, qui n'est pas un très bon film de moi d'ailleurs, mais où il y avait une fille nue dedans, et je voulais cette musique-là, que nous n'avons pas eue, mais Bromberger ne s'est pas embarrassé, il a commandé à Duhamel un plagiat, carrément, et c'est Christine Dapierre qui l'a chanté pour l'enregistrement. Donc, vous voyez, la musique m'a beaucoup habité et suivi quand même.
Votre plus belle émotion musicale, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit ?
Ma plus belle émotion musicale, c'est sans doute le jour où Isaac Stern m'a fait le cadeau de ce Largo de Bach sur le bateau, et un jour de Yom Kippour, alors que je ne suis pas de confession juive, c'était un cadeau exceptionnel, quoi, extraordinaire, qu'un homme pareil m'offre ce Largo que moi j'avais saccagé parce qu'il y a plein de quadruples cordes terribles, et je supprimais les quadruples cordes, je ne jouais que la mélodie, et lui, évidemment, ne supprimait rien, il faisait tout ce qu'il fallait faire, c'était superbe.
Ça effectivement, c'est un, qu'un cadeau.
C'est inimaginable, quoi. C'est...
Peut-être pour finir cette courte interview, mais nous reviendrons, j'espère, sur ce très beau sujet. Lucien Clergue, à la question d'où vient la musique, que répondriez-vous?
Je crois qu'elle est en nous, elle nous environne, ne serait-ce que le vent. N'oubliez pas que j'habite à Arles, la Provence, nous sommes tout à fait en bas de cette vallée du Rhône, et le vent joue un rôle considérable. Selon chez qui on va, on entend une musique sous les portes, à travers les fenêtres, et notamment mon ami Jean-Maurice Rouquette, lorsqu'il était conservateur des musées d'Arles, et notamment du musée Réattu, où il avait l'appartement de fonction, en plein nord, je peux vous dire que c'était effrayant parfois, parce que on entendait des bruits, des sifflements, des portes qui évidemment vibrent, parfois qui claquent parce qu'évidemment il y en a d'ouvertes et qui se ferment brutalement. Le vent est la première musique de l'univers.
Merci Lucien Clergue, merci d'avoir évoqué votre passion du violon, d'avoir levé un... Vous en avez déjà parlé, mais d'avoir levé aujourd'hui pour nous le voile sur cette partie de votre vie, c'est une partie aussi assez intime, et de nous avoir parlé de ce merveilleux violon. Il est proche aussi de votre travail sur les courbes.
Hein, absolument, il est proche de la femme,
voilà.
Désolé, hein, soyons
C'est un instrument féminin par excellence. Merci beaucoup.
Merci.